Chapitre 42. Venez, dit à nouveau Stello. Il escalade quelques rochers. Andy le laisse passer et je soupçonne que c'est pour mieux admirer le trapèze de son dos d'acrobate. Ainsi, ose demander Andy, Saint-Ex ne serait pas mort en Méditerranée? Il serait venu ici. C'est plutôt difficile à croire. Merci, Andy. Je pense comme elle. Une stèle de granit gravé ne prouve rien. Stello s'assoit sur un des rochers et sourit de toutes ses dents blanches. Difficile à croire. Antoine évoquait pourtant en permanence son désir de se retirer du monde. Il ne parlait pas de mourir, mais de partir, de disparaître. C'est d'une telle évidence quand on le lit. Andy réagit. D'accord, moi aussi j'y ai cru, comme tout le monde. Ça a été le fantasme de milliers de lecteurs pendant des années. Saint-Ex n'est pas mort. Il est caché quelque part. Mais, poursuit Stello en plantant son regard aussi clair que la mer dans celui d'Andy. On n'a jamais retrouvé Saint-Exupéry. Le rêve s'est effacé au fur et à mesure que les années passaient. Antoine est né le 29 juin 1900. Même les admirateurs les plus purs, même les membres du Club 612, ont cessé de croire à son retour alors que la fin du siècle approchait. Puis est apparue la miraculeuse gourmette, en 1998, et tout espoir qu'il soit encore vivant a été définitivement enterré. Andy semble douter. Pas moi. Je m'assois à mon tour sur un rocher mouillé. N'empêche, il faudra nous fournir d'autres preuves que cette tombe de granit gravée. Andy confirme de la tête. Pas autant que je le voudrais. Voulez-vous entrer dans le Club 612 ? Propose soudain Stello. Il s'adresse à Andy, pas à moi. Je n'ai pas vu le coup venir. Pourquoi pas ? Répond mon renard tout sourire. Il faudrait un peu le rajeunir. Stello éclate de rire.
Vous me trouvez vieux ?
Vous êtes vraiment le géographe ?
Il paraît. Prêt à passer votre examen d'entrée ? Andy cale son dos et ses fesses contre un autre rocher. Peau nacrée et t-shirt trop large. Le plus joli des coquillages.
Prête ! Quel est l'énoncé du sujet ?
Convaincre un incrédule et tous les incrédules de la Terre que Saint-Ex n'est pas mort le 31 juillet 1944. Je sursaute. C'est moi l'incrédule ? On pourrait me demander mon avis ?
À vous l'honneur, jeune homme, annonce Andy.
Stello ne se fait pas prier.
Drôle de planète, écrit Antoine à sa maîtresse, Nathalie Palais. Il est peut-être une étoile où la vie est simple.
Il a fini par découvrir cette étoile sur cet atoll.
Mouais,
commente Andy.
La belle maîtresse russe n'a été qu'une étoile filante dans la vie de Saint-Exupéry. Je préfère de loin cette lettre à Nelly de Vogüé en 44. Fuir, voilà l'important. J'ai tellement envie de les quitter, tous ces imbéciles. Qu'ai-je à faire ici, sur cette planète? On ne veut pas de moi? Comme ça tombe bien, je ne voulais pas d'eux. Je leur rendrai avec plaisir mon tablier de contemporain. Je voudrais bien me reposer. Alors, Antoine n'écrit pas qu'il veut mourir. Il veut seulement rendre son tablier de contemporain. Il ne veut pas quitter la vie. Il veut quitter les hommes.
Stello applaudit silencieusement.
Bien joué, mademoiselle. Mais j'ai encore mieux. La lettre à Madame de Rose, en juillet 44, moins d'un mois avant la disparition d'Antoine, et aussi étrange que cela paraisse, c'est le vrai nom de cet ami. Une lettre sublime, où Antoine écrit qu'il ne rêve que de silence, loin de la civilisation du téléphone qui lui est intolérable, cette caricature de présence qui remplace la vraie présence.
Pauvre Saint-Ex, pensais-je, s'il savait ce que le monde est devenu. Stello se tait un instant, observe le banc de pierre face à la mer, puis y récite.
J'ai une indigestion de bornes kilométriques. Ça ne mène à rien. Il serait tout de même temps de naître. Vous avez bien entendu, mademoiselle? Saint-Ex veut quitter son avion, non pas pour mourir, mais pour naître. Et pour finir, il révèle tout à Madame de Rose. En attendant la vocation de Solesmes ou du monastère tibétain, je recommence à tirer les manettes de gaz à 600 km/h. Il a fini par trouver son monastère. Il termine sa lettre testament ainsi. Je suis simplement venu m'asseoir pour 5 minutes d'éternité dans l'amitié. Sur ce banc, ici, tout est dit.
Tous les deux, fixes, ensemble, le banc de pierre face à l'Atlantique, en partie recouvert par la marée. J'ai l'impression de ne plus exister. Je tente d'accrocher le regard d'Andy, mais impossible de la déconcentrer. Elle continue de défier le jeune Robinson Apollon.
« Je vous l'accorde, » concède Andy. « Saint-Ex cherchait un banc, rien de plus qu'un banc face à l'éternité. Et ce banc, vous l'avez trouvé. Par contre, j'ai encore mieux.
Vraiment ?»
En juillet 44, Saint-Ex a écrit une lettre à sa mère, une lettre qu'étrangement, elle ne recevra qu'un an plus tard. Une lettre où il dit « Antoine l'a écrite ici. »
Andy en reste statufié. Stello répète, sûr de lui,
« Antoine l'a écrite ici, sur ce banc. » Il a pris un gros risque ce jour-là. Dévoiler qu'il était vivant dans une lettre post-mortem, même s'il a pris soin de l'antidater de quelques jours avant sa disparition. Mais il n'avait pas le choix. Sa mère était désespérée, il devait lui donner des nouvelles. Cela revenait à révéler toute sa supercherie. D'ailleurs, sa mère a toujours affirmé qu'elle savait que son fils était vivant, caché quelque part. Et pourtant, tout le monde a avalé cette histoire de lettres qui met un an à arriver.
J'observe Andy, petit poing serré à en exploser les rochers. Ma détective refuse de rater son examen d'entrée.
Pfff, je m'en doutais. C'est évident quand on sait. Ce n'est pas la lettre de quelqu'un qui va mourir. C'est la lettre de quelqu'un qu'on croit mort et qui veut rassurer ses proches. Il la commence ainsi. Ma petite maman, je voudrais tellement vous rassurer sur moi et que vous receviez ma lettre. Je vais très bien. Tout à fait. Embrassez-moi comme je vous embrasse, du fond de mon cœur. C'est une très courte lettre où Saint-Ex ne raconte rien sur lui. Lui, qui rédigeait d'ordinaire d'interminables courriers à sa maman, où il ne dit rien à part qu'il va bien. Cette lettre est une carte postale lointaine d'un absent vivant.
Andy s'arrête, comme épuisé. Puis, quémant d'un compliment dans le regard bleu-vert de Stello, le mien n'existe plus.
Alors, je suis admise au club 612 ?
Stello la félicite d'un battement de paupières.
« Que vous êtes impatiente, mademoiselle. Vous avez été brillante, mais nous n'en sommes qu'à la moitié de l'épreuve.
Comment ça ?»
Stello se tourne vers moi.
« Nous avons démontré à tous les incrédules de la planète, sans aucun doute possible, qu'Antoine voulait trouver un banc, une étoile ou une île pour se reposer loin des hommes. Mais vous menez une enquête sur un double meurtre, n'oubliez pas. Et le petit prince? De quels indices dispose-t-on pour prouver que sa disparition n'est qu'une mise en scène? Car nous sommes d'accord. Puisqu'Antoine a mis en scène sa disparition, il doit l'annoncer dans son compte.
Andy a l'air d'adorer ce nouveau défi. Moi pas. L'incrédule fait sa tête de mule.
Allez-y, invite Stello. Engagez. « Mademoiselle, je pense qu'il faut retourner au manuscrit original, celui de la Morgan Library, pour les repérer. Au départ, Saint-Ex voulait commencer son conte ainsi. Il était une fois un petit prince qui habitait une planète trop petite et s'y ennuyait beaucoup. Tous les matins, il se levait et la balayait. Quand il y avait beaucoup de poussière, ça faisait des... C'est illisible... Mais deux dessins représentent le petit prince en train de balayer, puis d'être couché dans l'eau. Mais
il prenait son tube dans la mer. « Prendre son tube ?» demandai-je.
« Une vieille expression qui veut dire prendre son bain, faire sa toilette. »
Je déteste la réponse laconique d'Andy.
« Donc, je résume. »
Continue mon petit renard cruel.
« La première intention de Saint-Ex, ce n'est pas de nous raconter une histoire d'amour, un prince qui quitte sa rose et veut la retrouver, mais l'histoire d'un petit prince qui s'ennuie, qui en a assez de faire son devoir, balayer, que la poussière rend malade, et qui rêve, se lave, se purifie, non pas dans le ciel ou le désert, mais dans la mer. » Cette version était sans doute trop facile à décoder. Saint-Ex a été plus malin et a tout compliqué, tout masqué. Même s'il emploie le mot « évasion » quand le petit prince quitte sa rose. Étrange ce mot « évasion », non ? Comme un prisonnier en cavale qui va se cacher.
Stello paraît impressionné.
« Bravo, mademoiselle. Et que pensez-vous de cette autre modification entre la version originale et la version finale ? Quand Antoine parle de l'humanité entière qui s'entasse dans un petit espace, la référence à Manhattan est supprimée pour être remplacée par un petit îlot du Pacifique.
Je m'apprête à intervenir, mais Andy me coupe l'herbe, ou plutôt me retire le sable rose sous le pied.
Il ne parle pas d'Atlantique. Saint-Ex ne va pas aussi facilement nous livrer toutes les clés, réplique Stello. Mais il prétend faire tenir toute l'humanité sur un minuscule îlot. Son humanité. N'est-ce pas une superbe métaphore quand on connaît la vérité ? Et cet autre passage, qui n'existe que dans l'exemplaire de la Morgan Library, étrangement supprimé dans la version finale, où le petit prince rencontre un inventeur. Tu appuies sur ce bouton vert. Tu es au pôle, dit l'inventeur.
Pourquoi voudrais-je aller au pôle ?
Récite Andy. Tous les deux connaissent par cœur cette version inédite du Petit Prince. Je suis tout autant énervé qu'impressionné.
Parce que c'est loin. Ce n'est pas loin, s'il suffit d'appuyer sur ce bouton. Pour que le pôle compte, il faut que tu l'apprivoises.
Qu'est-ce que veut dire apprivoiser ?
Ça veut dire mettre beaucoup de temps dans le pôle et beaucoup de silence.
Tous les deux me regardent. Leur complicité m'effraie.
Dans sa première version, explose Andy, Saint-Ex n'apprivoise pas son ami le renard ou sa rose amoureuse. Il apprivoise le pôle. Il apprivoise la distance. Il apprivoise le silence. Il s'apprivoise lui-même. Il apprivoise sa liberté.
Elle me regarde. Je n'exprime rien. Rien qu'une déprime. Andy semble gêné. Stello ne lui laisse aucun repos.
« D'accord, mademoiselle. Puisque vous en parlez, revenons à l'indice le plus important, la rose, le symbole du paradis pour les chrétiens. Mais existe-t-il, le paradis ? Est-il la seule possibilité de vivre après la mort ? Antoine n'est pas croyant. N'existe-t-il pas une possibilité plus simple ? Un paradis laïque ? Un paradis sur terre ? Se retirer des vivants, de la terre mitière, sur une étoile, comme le petit prince, ou plus simplement, sur une île.
Évidemment, se moque Andy. L'étoile du petit prince est l'île de Saint-Exupéry. Et puisque vous enfoncez les évidences, n'oublions pas la plus belle.
J'aurai l'air d'être mort, et ce ne sera pas vrai.
Chapeau, Tonio! Cette affirmation-là était la plus gonflée de toutes. Il parlait de lui autant que du petit prince.
Stello va répliquer, mais Andy enchaîne, déchaîné.
Et il pousse même l'audace encore plus loin dans le dernier chapitre, quand l'aviateur parle du petit prince, un peu consolé.
Je sais bien qu'il est revenu à sa planète, car au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. Ce n'était pas un corps tellement lourd.
Quel indice !
On ne retrouvera jamais non plus le corps de Saint-Ex, seulement une écorce de fer, son avion. Mais si on suit l'enseignement du petit prince, puisqu'il n'y a aucune trace du corps de Saint-Ex, c'est donc que Saint-Ex est revenu à sa planète. On peut être consolé, il n'est pas mort. Comment aurait-il pu deviner qu'il serait abattu sans qu'on retrouve son cadavre ? Une telle coïncidence entre leurs deux disparitions est impossible. La version officielle, si l'on y pense, ne tient pas debout. Saint-Ex avait forcément tout prémédité. Et sa question finale, l'avant-dernière phrase du conte, quand, ayant oublié la courroie de la muselière, il se demande si le mouton a, ou non, mangé la fleur. C'est la question d'un homme qui fuit la terre et se demande, désormais en spectateur, comment la guerre se terminera, si la bête immonde dévorera le monde, et si la terre mitière survivra.